Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 4. Nicolas et son oncle, pour ne pas laisser échapper une si belle occasion, rendent visite à Monsieur Wackford Squeers, maître de pension dans le Yorkshire. Snow Hill. Qu'est-ce que peut être ce Snow Hill? Se demandent les bonnes gens des villes de province où passent les diligences du Nord quand ils y voient inscrit ce mot mystérieux en grandes lettres d'or sur un fond noir avec un splendide écusson. On finit toujours par se faire une idée vague et par avoir une notion confuse d'un endroit dont le nom frappe souvent nos yeux ou nos oreilles. Jugez du nombre prodigieux de suppositions en l'air auxquelles prêtait ce nom de Snow Hill. Snow Hill, c'est déjà par soi-même un nom bien fait pour piquer la curiosité. Mais Snow Hill, en compagnie d'une tête de sarrasin, notre esprit par un affreux accouplement d'idées, quelque chose d'âpre et de rébarbatif. Quelques contrées glaciales et désolées, en proie à la bise perçante et aux terribles ouragans de l'hiver, quelques landes solitaires dans le jour et la nuit. Rien que d'y penser, c'est à faire frémir d'honnêtes gens. Quelques coupe-gorges redoutées des voyageurs isolés, le rendez-vous d'infâmes brigands. Voilà, j'imagine, comment on devait se figurer ce Snow Hill inconnu dans les campagnes isolées. Que la tête de Sarrasin, comme une apparition lugubre, traverse en courant tous les jours ou toutes les nuits avec l'exactitude fatale attribuée aux revenants. Poursuivant résolument sa course rapide par tous les temps et semblant porter un défi aux éléments même conjurés. La réalité est un peu différente, mais elle n'est pas non plus tout à fait à dédaigner. C'est là, au cœur de Londres, au centre de l'activité des affaires, au milieu d'un tourbillon de mouvements et de bruits, et, comme pour refouler le courant abondant du fleuve de vie qui afflue sans cesse de différents quartiers et vient baigner les pieds de ses murs, c'est là que se dresse, debout, Newgate. Là, dans la rue populeuse sur laquelle il plane d'un air sombre, à quelques pas de ses maisons sales et délabrées, à l'endroit même où les marchands de soupe aux poissons et de fruits gâtés exercent leur commerce. On a cent fois vu des êtres humains à travers un tumulte de sons dont n'approche pas le fracas des grandes villes. Des hommes vigoureux et sains, lancés dans la mort par bandes de quatre, 6 ou 8. Scène horrible, rendue plus horrible encore par le spectacle des derniers sanglots de vie. Et chaque fenêtre, chaque toit, et chaque mur, et chaque pilier avaient ces curieux qui venaient en rassasier leurs yeux, pendant que le malheureux, agonisant, dans toute cette masse de figures frémissantes et le nez en l'air, n'en rencontrait pas une, qui consola son dernier regard par l'expression d'une pitié compatissante. Près de la prison, et par conséquent aussi de Smithfield et du comptoir, c'est-à-dire de tout le bruit et le tumulte de la cité, juste à l'endroit de Snow Hill où les chevaux d'omnibus qui partent pour l'est de la ville sont tentés de se laisser tomber exprès et où ceux des cabriolets de louage vont vers l'ouest, tombent souvent par accident, est située la cour intérieure de l'auberge dite de la tête de Sarrasin. En effet, deux têtes de sarrasins avec leurs larges épaules montent la garde à son portail. Il fut un temps où elles étaient exposées à se voir la nuit jetées par terre par quelques aimables tapageurs de la métropole qui mettaient leur gloire à se signaler par des exploits nocturnes. Mais, depuis quelque temps, on les a laissées en paix, maîtresses du terrain. Peut-être parce que ce genre de gaieté folâtre a changé de paroisse et s'est transporté à Saint James, où elle préfère s'exercer sur les marteaux de porte, plus portatifs, et sur le fil de fer des cordons de sonnette, plus commode pour en faire des cure-dents. Pour cette raison ou pour toute autre, les têtes sont là, fidèles au poste. Et vous pouvez les voir qui vous regardent de mauvais œil de chaque côté de la porte cochère. L'auberge elle-même, ornée d'une autre tête de sarrasin, vous fait aussi mauvaise mine du fond de la cour. Et, quand vous passez plus loin, sur les panneaux de toutes les diligences rouges qui y sont rangées à la file, brille d'un éclat éblouissant un diminutif de tête de sarrasin. Qui a un air de famille, avec les grosses têtes à la porte, en sorte que décidément le style général du monument n'est ni de l'ordre corinthien, ni de l'ordre dorique, mais bien de l'ordre saracénique. En avançant dans la cour, vous trouvez à gauche le bureau d'enregistrement, et à droite, la tour de l'église du Saint-Sépulcre, qui s'élance dans le ciel à perte de vue, avec une galerie de chambres à coucher tout autour. Tout à fait au-dessus de votre tête, vous remarquez une fenêtre avec ce mot « café » peint en caractère lisible sur le devant. Et puis, en regardant derrière cette fenêtre, vous pourriez apercevoir de plus, en ce moment, Monsieur Wackford Squeers, les mains dans les poches. L'extérieur de Monsieur Squeers ne prévenait pas en sa faveur. Il n'avait qu'un œil. Et je ne sais si c'est un préjugé, mais généralement, on en préfère un de plus. L'œil qu'il possédait n'était certainement pas sans utilité. Mais ce n'était assurément pas un œil d'agrément. Car il était d'un vert gris quant à la couleur, et quant à la forme, il ressemblait assez à ces impostes vitrés qui couronnent d'un éventail la porte d'entrée de nos maisons. Le coin de l'œil ridé et ratatiné lui donnait une physionomie sinistre, surtout quand il voulait sourire, car alors son expression prenait quelque chose de traître et de faux. Il avait les cheveux plats et luisants. Excepté à leurs racines, où ils se dressaient roides comme une brosse de son front bas et protubérant, le tout en harmonie avec sa voix rude et ses manières grossières. Il pouvait avoir de 50 à 53 ans. Sa taille était un peu au-dessus de la moyenne. Il portait au col une cravate blanche à longs bouts. Son costume, tout scolastique, était entièrement noir. Mais les manches de son habit étant beaucoup trop longues et les canons de son pantalon beaucoup trop courts, il n'avait pas l'air à son aise dans ses vêtements, et paraissait surtout dans un état d'étonnement perpétuel de se voir si bien mis. Monsieur Squeers se tenait dans une stalle près d'une cheminée du café, avec une table devant lui telle qu'on en voit dans tous les cafés. Mais il y en avait deux autres dans les encoignures de forme et de dimension extraordinaires pour s'accommoder aux angles de la cloison. Sur un coin de la banquette était une toute petite masse de bois blanc, attachée par un misérable bout de ficelle. Et sur cette masse était perché un atome de petit garçon, dont on voyait pendiller les bottines lacées et la culotte de peau. Il avait la tête enfoncée dans les épaules jusqu'aux oreilles, les mains étalées sur ses genoux, et, jetant de temps en temps un coup d'œil furtif du côté du maître de pension, avec des signes manifestes d'appréhension et de terreur. « 3 heures et demie passées !» murmurait M. Squeers, détournant les yeux de la fenêtre pour les reporter d'un air de mauvaise humeur sur la pendule du café. « Il ne viendra personne aujourd'hui. » À cette pensée, M. Squeers, profondément vexé, regarda le petit garçon dans l'espérance qu'il ferait quelque chose pour mériter d'être battu. Mais comme l'enfant ne faisait rien du tout, il se contenta de lui donner une paire de taloches en lui disant de ne pas recommencer. « À la Saint-Jean, continua-t-il de grommeler entre ses dents, j'ai emmené 10 petits garçons. 10 fois 5, cela fait 5 000 francs. Je retourne demain à 8 heures du matin. Je n'en ai encore que 3. 3 quelque chose et n'est pas grand-chose. 3 fois 5 font 15, 1500 francs. Que diable fait-on de tous les enfants? Qu'est-ce qui passe dans la tête des parents? Qu'est-ce que tout cela veut dire? » Ici, le petit garçon qui trônait sur la masse fut pris d'un éternuement violent. « Eh bien, monsieur, » dit l'instituteur en se retournant avec colère. « Qu'est-ce que cela, monsieur ?»«
Pardon, monsieur, ce n'est rien, » répliqua l'enfant.
« Rien, monsieur ?» s'écria monsieur Squeers.
« Pardon, monsieur, c'est que j'éternuais, » répliqua le petit garçon, tremblant à faire trembler sous lui sa petite malle.
« Ah, vous éternuez, n'est-ce pas ? Alors pourquoi donc me disiez-vous que vous ne faisiez rien, monsieur ?»
Faute de trouver une meilleure réponse à cette question, le petit garçon s'enfonça les poings dans les yeux et se mit à pleurer. Sur quoi M. Squeers lui donna d'un côté sur la face un coup qu'il aurait descendu de son siège s'il ne lui en avait pas donné un second sur l'autre joue qui le remit en selle.
« C'est bon. Attendez que je vous tienne en Yorkshire, mon petit monsieur, » dit M. Squeers, « et je vous donnerai votre reste. Avez-vous bientôt fini de crier, monsieur ?»«
Oui, » dit en sanglotant l'enfant qui frottait de toutes ses forces sa figure humide de pleurs avec la complainte du mendiant sur un mouchoir de calicot imprimé.
« En tout cas, que ce soit fini tout de suite, entendez-vous ?»
Comme cette injonction était accompagnée d'un geste menaçant et prononcé d'un ton féroce, le petit garçon se frotta bien plus fort encore, comme pour renforcer ses larmes. Et, sauf le retour de quelques sanglots étouffés, il ne donna plus carrière à ses émotions. « Monsieur Squeers, » dit le garçon d'auberge passant la tête en ce moment-là par la porte entr'ouverte. « Voici un gentleman qui vous demande au comptoir. »«
Faites entrer le gentleman, » répondit Monsieur Squeers adoucissant sa voix. « Et vous, petit drôle, mettez votre mouchoir dans votre poche ou je vais vous assassiner quand le gentleman sera parti. »
L'instituteur avait à peine eu le temps de prononcer ses menaces à demi-voix quand l'étranger entra. Feignant de ne pas le voir, M. Squeers fit semblant d'être occupé à tailler une plume et à donner à son élève des conseils paternels.
« Mon cher enfant, » disait M. Squeers, « chacun a ses épreuves en ce monde. Cette épreuve, il est vrai prématurée, qui fait gonfler votre jeune cœur et qui vous fait sortir les yeux de la tête à force de pleurer. Qu'est-ce que c'est, après tout ? Rien, moins que rien. Vous quittez vos amis, mais vous allez retrouver en moi un père, mon cher enfant, et une mère véritable en Madame Squeers, au délicieux village de Dotheboys, près de Greta Bridge, dans le Yorkshire, où les jeunes gens sont nourris, habillés, fournis de livres classiques, d'argent de poche, blanchis, pourvus de toutes les choses nécessaires.
C'est monsieur, dit l'étranger arrêtant l'instituteur au milieu de la récitation de son prospectus.
« Qui est monsieur Squeers, je pense ?»«
Moi-même, monsieur, » dit monsieur Squeers, simulant une extrême surprise.
« C'est vous, monsieur, qui avez mis une annonce dans le journal Le Times ?» Le Morning Post, le Chronicle, le Herald et l'Advertiser. Concernant l'académie intitulée Dotheboys Hall et délicieux village de Dotheboys près de Greta Bridge dans le Yorkshire, ajouta M. Squeers. Vous venez pour affaire, monsieur? Je le vois à ces petits messieurs qui sont à vos côtés. Comment vous portez-vous, mes petits amis? Et vous, monsieur, comment vous portez-vous? En même temps, il donnait un petit coup caressant sur la tête de deux enfants aux yeux caves et d'une structure délicate que l'étranger avait emmené avec lui et semblait attendre de plus amples renseignements. « Je suis dans la couleur à l'huile. Je m'appelle Snowley, monsieur, » dit le nouveau venu. Squeers inclina la tête comme s'il voulait dire « Vous portez là un bien joli nom. » « J'ai l'intention, monsieur Squeers, de placer mes enfants chez vous. »« Ce n'est peut-être pas à moi de le dire, monsieur, » répliqua Squeers. « Mais je ne pense pas que vous puissiez trouver mieux. »« Hein ?» dit l'autre. « C'est 20 livres sterling pour l'année, n'est-ce pas, monsieur Squeers ?»« 20 guinées, » reprit le maître de pension avec un sourire persuasif. « 20 livres chacun, s'il vous plaît, monsieur Squeers, » dit monsieur Snowley d'un air solennel. « Vraiment, je ne crois pas cela possible, » répliqua monsieur Squeers, comme si c'était la première fois qu'il eut à réfléchir sur une pareille proposition. « Laissez-moi voir. 4 × 5 font 20, multiplié par 2 et retranché. Allons, il ne faut pas que nous nous tenions à 25 francs. Tenez, vous me recommanderez à vos connaissances et j'en passerai par là. » « Ce ne sont pas de gros mangeurs, » dit M. Snowley. « Oh, cela n'y fait rien, » repartit M. Squeers. Nous ne faisons pas du tout attention à l'appétit des enfants dans notre établissement. C'était bien vrai, le malheureux, ce n'était que trop vrai. Tout le luxe de santé que peut donner le Yorkshire, continua M. Squeers, toutes les beautés morales que Mme Squeers peut inculquer à la jeunesse, enfin, tout le confort domestique qu'on peut désirer pour un enfant, ils l'auront, M. Snowley. « C'est particulièrement sur leur moralité que je vous prierai de veiller, » dit M. Snowley. « J'en suis charmé, monsieur, » reprit M. Squeers en se redressant glorieusement. « Ils seront justement venus tout droit à la véritable école de la moralité, monsieur. »« Vous êtes vous-même un homme moral, » dit le père. « Mais je m'en flatte, monsieur, » répliqua M. Squeers. « Je me suis assuré que vous l'êtes, » dit M. Snowley. « J'ai pris des informations auprès d'un de vos répondants qui m'a dit que vous étiez très pieux. »« C'est vrai, monsieur. J'espère que je suis connu pour cela. »«
C'est comme moi, » reprit l'autre. « Je voudrais vous dire un petit mot en particulier dans le cabinet voisin. »«
Volontiers, » dit Squeers avec un sourire forcé.
« Mes chers petits, voulez-vous causer une minute avec votre nouveau camarade? C'est un de mes élèves, monsieur. Il s'appelle Belling.
Il est de Taunton, monsieur. »«
Ah, vraiment ?» reprit monsieur Snowley, regardant le pauvre petit souffre-douleur, comme si c'était quelque curiosité naturelle extraordinaire.
« Il part demain avec moi, monsieur, » dit Squeers.
« Voilà ses effets sur lesquels il s'est assis. » « Tous les pensionnaires doivent apporter, monsieur, 2 habillements complets, 6 chemises, 6 paires de bas, 2 bonnets de nuit, 2 mouchoirs de poche, 2 paires de souliers, 2 chapeaux et 1 rasoir. »«
Un rasoir ?» s'écria monsieur Snowley, tout en passant dans le cabinet voisin.
« Pourquoi faire ?»«
Pour se raser, » répondit Squeers un ton grave et mesuré. Ces 3 mots n'avaient pas l'air de dire grand-chose. Mais il devait y avoir dans la manière dont ils furent articulés de quoi attirer l'attention, car l'instituteur et son interlocuteur se regardèrent fixement, l'un l'autre, pendant quelques secondes, et finirent par échanger ensemble un sourire très significatif.
Snowy était un homme à la peau luisante, au nez épaté. Il avait des vêtements de couleur sombre, de longues guêtres noires, et tout son extérieur respirait une expression de sainte mortification. Son sourire inexpliqué n'en était que plus remarquable. « Jusqu'à quel âge gardez-vous donc les enfants dans votre pension ? » demanda-t-il à la fin. « Tout le temps que leurs parents paient exactement leur trimestre à mon agent de Londres. À moins qu'ils ne se sauvent de chez moi, » répliqua M. Squeers.
« Voyons, expliquons-nous. Je vois que nous nous entendons.
Qu'est-ce que c'est que ces petits garçons ? Des enfants naturels ?»«
Non, » répondit Snowy, soutenant le regard scrutateur que lui dardait l'œil unique de l'instituteur.
« Ah, je croyais, » dit froidement M. Squeers. « Nous en avons beaucoup. Tenez, j'en ai un là. »«
Celui qui est dans le cabinet voisin ?» dit Snowy.
Squeers répondit par un signe affirmatif. Son visiteur jeta un nouveau coup d'œil sur le petit garçon de la malle et se retourna d'un air parfaitement désappointé, en voyant qu'il ressemblait tout à fait aux autres enfants.
« C'est extraordinaire, » dit-il. « Je n'aurais jamais cru cela. »«
Eh bien, c'en est un, » lui répliqua Squeers. « Mais les vôtres, qu'est-ce que vous alliez me dire ?»«
Voilà, » dit Snowy.
« Le fait est que je ne suis pas leur père. Je ne suis que le beau-père. »
« Oh, c'est donc ça, » dit le maître de pension. « À la bonne heure, je me demandais aussi pourquoi diable vous alliez les envoyer en Yorkshire.
Oh, maintenant je comprends. »«
Voyez-vous, j'ai épousé la mère, » poursuivit Snowy. « C'est trop coûteux de garder des enfants à la maison et comme elle a quelque argent à elle, j'ai peur... » Les femmes sont si peu raisonnables, monsieur Squeers, qu'elles ne soient tentées de le gaspiller pour eux, ce qui les ruinerait, vous comprenez ?»«
Je comprends, » dit Squeers, se rejetant en arrière dans son fauteuil et lui faisant signe de la main de ne pas parler trop haut.
« C'est là, » continua monsieur Snowy, « ce qui m'a fait prendre le parti de les mettre dans quelque bonne pension, un peu loin. » Où il n'y a pas de congé, pas de ces absurdes vacances qui dérangent deux fois par an les enfants pour les envoyer à la maison où ils puissent un peu se dégrossir, vous comprenez.
Les paiements seront réguliers et qu'il n'en soit plus parlé, dit Squeers avec un signe de tête.
C'est cela exactement, poursuivit l'autre. Cependant, attention à la moralité.
Soyez tranquille.
« Vous ne permettez pas, je suppose, d'écrire trop souvent à la maison, » dit le beau-père avec un peu d'hésitation.
« Jamais, excepté une circulaire à Noël, pour dire qu'ils n'ont jamais été aussi heureux et qu'ils espèrent qu'on les enverra jamais chercher, » répondit M. Squeers.
« Je ne pouvais rien désirer de mieux, » dit le beau-père en se frottant les mains.
« À présent, » dit Squeers, « que nous nous comprenons tous les deux, me permettrez-vous de vous demander si vous me tenez pour un homme d'une haute vertu, régulier et d'une conduite exemplaire dans sa vie privée, et si vous n'avez pas, sous le rapport de mes devoirs comme instituteur de la jeunesse, la plus entière confiance dans mon intégrité scrupuleuse, ma libéralité, mes principes religieux et ma capacité ?»«
Certainement, je l'ai !» répliqua le beau-père en envoyant au maître de pension le même ricanement.
« Alors, peut-être ne verrez-vous pas d'inconvénient à le certifier si j'envoie aux informations près de vous ?»«
Pas le moins du monde. »«
Vous êtes mon homme, » dit Squeers prenant une plume.
« Voilà ce que j'appelle faire des affaires, et c'est comme cela que je les aime. »
Puis, ayant inscrit l'adresse de M. Snowy, le vertueux instituteur n'eut plus qu'à remplir un devoir encore plus agréable, celui d'inscrire aussi à la recette le paiement du premier quartier d'avance, opération à peine terminée, quand on entendit une autre voix demandant M. Squeers.
« Le voici. Qu'est-ce que c'est ? Seulement une petite affaire, monsieur, dit Ralph Nickleby, s'introduisant sans autre formalité avec Nicolas à ses côtés. N'est-ce pas vous qui avez fait insérer une annonce dans les journaux ce matin?
C'est moi, monsieur. Par ici, s'il vous plaît, dit Squeers, qui était allé reprendre sa place dans la salle près de la cheminée.
Ne voulez-vous pas vous asseoir?
Si fait, répondit Ralph, le faisant comme il le disait, et mettant son chapeau sur la table qui était devant lui. « Voici mon neveu, monsieur Nicolas Nickleby. »«
Comment vous portez-vous, monsieur ?» dit Squeers.
Nicolas salua, répondit qu'il se portait bien, et sembla fort étonné de voir l'extérieur du propriétaire de Dotheboys Hall. Il s'attendait à mieux.
« Peut-être que vous me reconnaissez, » dit Ralph, regardant de près le maître de pension.
« Oui, c'est vous qui régliez tous les 6 mois un petit compte avec moi il y a quelques années, quand je venais à la ville, n'est-ce pas, monsieur ?» répondit Squeers.
« Tout juste. »
« C'était pour les parents d'un élève nommé Dorker qui a eu le malheur. »«
Le malheur de mourir à Dotheboys, » dit Ralph, finissant sa phrase.
« Je me le rappelle très bien, monsieur, » reprit Squeers. « Ah, monsieur, que Madame Squeers a été bonne pour cet enfant. Ça aurait été le sien qu'elle ne l'aurait pas mieux soigné. Quelle attention maternelle pendant sa maladie, des rôtis et du thé chaud qu'on lui donnait tous les soirs et tous les matins quand il ne pouvait plus rien avaler. Une chandelle dans sa chambre, la nuit même de sa mort. Le meilleur dictionnaire qu'on pût trouver dans une maison qu'on lui envoya pour reposer sa tête. Après tout, je n'ai pas de regret à ses sacrifices. On est bien heureux de penser qu'on n'a rien eu à se reprocher avec lui. »
Ralph sourit, mais d'un air qui n'était pas du tout souriant, et jeta les yeux sur les personnes qui se trouvaient là.
« Ce sont quelques-uns de mes élèves, » dit Wackford Squeers, montrant du doigt le petit garçon assis sur sa masse et les deux petits garçons assis sur le parquet, qui avaient passé tout ce temps-là à se regarder les uns les autres sans dire un mot, et à se disloquer le corps en une foule de contorsions étonnantes, selon l'usage des petits garçons qui en sont à leur première entrevue. Quant à ce gentleman, monsieur, c'est un père d'élèves qui était assez bon pour me faire compliment du système d'éducation adopté à Dotheboys Hall, situé, monsieur, au délicieux village de Greta Bridge, dans le Yorkshire, où les jeunes gens sont nourris, habillés, blanchis, fournis de livres classiques et d'argent de poche.
« Oui, nous savons tout cela, » dit Ralph d'un air ennuyé en l'interrompant. « Cela se trouve dans les annonces. »«
Vous avez parfaitement raison, monsieur. Cela s'y trouve, en effet, » répliqua Squeers.
« Et ce n'est pas seulement dans les annonces, Dieu merci, » dit monsieur Snowley. « Je suis obligé en conscience de vous garantir, et je suis heureux de saisir cette occasion de le faire, que je considère monsieur Squeers comme un gentleman de haute vertu, régulier d'une conduite exemplaire, et... »
« Je n'en ai aucun doute, monsieur, »
interrompit Ralph pour arrêter ce torrent de louanges.
« Aucun doute, assurément. Mais parlons de notre affaire. »
« De tout mon cœur, monsieur, » dit Squeers.
« N'ajournez jamais une affaire, c'est le premier précepte que nous inculquons à nos élèves de la classe commerciale. Maître Belling, mon cher petit, rappelez-vous toujours ce précepte, entendez-vous ?»«
Oui, monsieur, » répondit Maître Belling.
« Il se le rappelle, croyez-vous ?» dit Ralph.
« Répétez-le au gentleman, » dit Squeers.
« Jamais ne... »
commença Maître Belling.
« C'est très bien, » dit Squeers. « Allons, continuez. »
« Jamais ne... »
Et Maître Belling en restait encore là.
« Ah !» lui souffla Nicolas par bonté d'âme.
« Achever une affaire !» dit Maître Belling. « Jamais n'achever une affaire !»«
Très bien, monsieur, » dit Squeers, dardant un regard sombre et coupable. « Vous et moi, nous aurons à achever tantôt une petite affaire ensemble pour régler nos comptes. »
« Quant à présent, » dit Ralph, « nous ferions peut-être bien de finir la nôtre. »«
Comme il vous fera plaisir, » dit Squeers.
« Eh bien, » reprit Ralph, « ce ne sera pas long. J'espère que ce sera aussitôt conclu qu'entamé. Vous avez demandé dans les annonces un sous-maître capable, monsieur.
Précisément, dit Squeers.
Et vous en voulez réellement un ?
Certainement, répondit Squeers.
Le voici, dit Ralph. Mon neveu, Nicolas, tout frais et moulu des classes, la tête pleine de science et la poche vide, et tout juste l'homme qu'il vous faut.
J'ai peur, dit Squeers, embarrassé d'une telle demande pour un jeune homme de la tournure de Nicolas. J'ai peur que ce jeune monsieur ne puisse me convenir.
Que si, dit Ralph, il vous conviendra.
À Nicolas.
Ne vous découragez pas, monsieur. D'ici à 8 jours, vous enseignerez toute la jeune noblesse de Dotboys. Oui, il faudrait que ce gentleman fût obstiné, que je ne suppose.
Je crains, monsieur, dit Nicolas, s'adressant à monsieur Squeers, que votre refus ne vienne de ma jeunesse et de ce que je ne suis pas maître S.R.
Il est certain qu'il vaudrait mieux avoir pris quelques degrés dans l'université, répliqua Squeers, se donnant un air aussi grave qu'il le pouvait, et extrêmement troublé du contraste de la simplicité du neveu et des manières aisées de l'oncle. Mais surtout de l'allusion incompréhensible faite par le dernier à la jeune noblesse de son école.
« Tenez, monsieur, dit Ralph, je vais vous présenter l'affaire sous son véritable jour en 2 secondes. »«
Vous m'obligerez, reprit Squeers.
« Voici, dit Ralph, un garçon ou un adolescent ou un gaillard ou un jeune homme ou un mirliflore ou tout ce que vous voudrez de 18 à 19 ans.
« Pour cela, je le vois, observa le maître de pension.
« Et moi aussi, dit monsieur Snowley, croyant de son devoir de soutenir au besoin son nouvel ami. « Son père est mort, continua Ralph. « Il ne connaît pas du tout le monde, il n'a aucune ressource et sent le besoin de faire quelque chose. « Je vous le recommande pour entrer dans votre splendide établissement comme le premier pas qui peut mettre sur le chemin de la fortune, s'il sait en profiter. » Vous comprenez ?
Qui est-ce qui ne comprendrait pas cela ? Répliqua Squeers, imitant le rire malicieux avec lequel le vieux renard regardait son candide neveu.
Pour ma part, je le comprends aussi, dit Nicolas avec vivacité. Vous voyez, il le comprend, dit Ralph d'un ton rude et sec. Si quelque boutade capricieuse lui faisait rejeter cette occasion magnifique avant de l'avoir mise à profit, « Je me regarde comme dégagé de tout devoir d'assistance envers sa sœur et sa mère. Examinez-le et songez à tout le parti que vous pouvez en tirer pour bien des choses. À présent, la question est de savoir si, pendant quelque temps, à tout événement, il ne fera pas mieux votre affaire que 20 autres candidats auxquels vous pourriez vous adresser dans des conditions ordinaires. N'est-ce pas là une question qui mérite réflexion ?»
« Certainement si, » dit Squeers, répondant par un signe de tête au signe de tête de Ralph.
« Bien, » répondit Ralph, « laissez-moi vous dire 2 mots. »
Les 2 mots furent dits à part en moins de 2 minutes, et Monsieur Wackford Squeers annonça que Monsieur Nicolas Nickleby était à partir de ce moment nommé officiellement et installé dans les fonctions de premier maître auxiliaire à Dotboys Hall.
C'est à la recommandation de votre oncle que vous devez cela, monsieur Nickleby, dit Wackford Squeers.
Nicolas, ivre de joie à la vue d'un pareil succès, serra avec chaleur la main de son oncle. Je crois qu'il aurait presque encensé Squeers lui-même comme une divinité bienfaisante.
« Il a un air original, » se disait Nicolas.
« Mais quoi ? Persons avait un air original. Le docteur Johnson aussi. Tous ces savants plongés dans leurs livres sont comme cela.
« Monsieur Nickleby, c'est à 8 heures du matin que nous prendrons demain la diligence, » dit Squeers.
« Il faut que vous soyez ici 1 quart d'heure d'avance parce que nous avons ces élèves à amener avec nous. »«
Je n'y manquerai pas, monsieur, » dit Nicolas.
« J'ai payé votre place, » grommela Ralph. « Ainsi, vous n'aurez à vous occuper de rien que de vous mettre chaudement. » Encore un acte de générosité de la part de son oncle. Nicolas fut si touché de cette bonté inattendue qu'à peine il pouvait trouver ses paroles pour lui exprimer sa reconnaissance. Le fait est qu'il se confondait encore en remerciements quand ils prirent congé du maître de pension et traversèrent la grande porte de la tête de Sarrasin.
« Je serai ici demain matin pour vous voir embarquer comme il faut, » dit Ralph. « Surtout, pas de reculade. »
« Je vous remercie, monsieur, » répliqua Nicolas. « Jamais je n'oublierai tant de bonté. »«
Tâchez de ne pas l'oublier, » reprit l'oncle. « Maintenant, vous ferez bien d'aller chez vous faire votre mal. Croyez-vous pouvoir trouver le chemin de Golden Square auparavant ?»«
Certainement, » dit Nicolas. D'ailleurs, il me sera toujours facile de le demander.
Eh bien, alors, vous remettrez ce papier à mon clerc, dit Ralph en lui donnant un petit paquet, et vous lui direz de m'attendre à la maison.
Nicolas se chargea gaiement du message, et disant à son digne oncle un adieu cordial, auquel le vieux gentleman répondit avec sa tendresse de cœur ordinaire par un grognement. Et il se mit en route promptement pour faire sa commission. Il arriva tout droit à Golden Square. Monsieur Nudge, qui venait de sortir quelques minutes pour aller au cabaret, ouvrait justement la porte avec son loquet lorsque Nicolas montait les marches.
« Qu'est-ce que cela ? »
demanda Nudge en montrant le paquet.
« Des papiers de la part de mon oncle, » répondit Nicolas. « Et vous aurez la bonté de l'attendre ici jusqu'à son retour, s'il vous plaît. »«
Oncle ? » cria Nudge.
« Monsieur Nickleby, » dit Nicolas par forme d'explication.
« Entrez, » dit Newman.
Sans dire un mot de plus, il fit passer Nicolas par le corridor, le conduisit dans l'espèce de garde-manger du fond qui lui servait de bureau, le planta sur une chaise et, escaladant son tabouret, il s'assit, les bras pendant tout du long, les yeux braqués sur lui comme d'un observatoire.
« Il n'y a pas de réponse ?»
dit Nicolas, déposant le paquet sur une table à côté de lui. Newman ne disait rien, mais il croisa les bras, et portant la tête en avant, comme pour examiner de plus près la figure de Nicolas, il étudiait attentivement tous ses traits.
« Pas de réponse ?» dit Nicolas parlant très haut, dans l'idée qu'apparemment Newman Nudge était sourd.
Newman étendit les mains sur ses genoux, et sans prononcer une syllabe, continua de passer l'examen détaillé de la figure du nouveau venu. C'était un procédé si étrange de la part d'un homme qu'il n'avait jamais vu ni connu, et l'extérieur du personnage était si bizarre que Nicolas, qui ne manquait pas de finesse pour saisir le ridicule des gens, ne put réprimer un sourire en demandant à M. Nudge s'il n'avait pas d'autres instructions à lui donner. Nudge secoua la tête avec un soupir. Sur quoi Nicolas se leva et, prétextant qu'il n'avait pas de temps à perdre, lui souhaita bonjour. Voici un grand effort pour Newman Nudge, et personne n'a jamais pu savoir tout ce qu'il coûta à ses habitudes timides et silencieuses. Eh bien, quoique l'autre lui fût entièrement inconnu, il prit son courage à deux mains et dit à voix haute, et d'une haleine que, si le jeune gentleman n'avait pas de répugnance à l'honorer d'une pareille confidence, il voulait bien savoir ce que son oncle allait faire de lui. Nicolas n'avait pas de répugnance le moins du monde à répondre à cette question. Bien au contraire, il était charmé de trouver une occasion de causer sur le sujet qui occupait tout entier sa pensée. Aussi, il se rassit et, entraîné par l'ardeur de son imagination, il fit une description brillante et animée de tous les honneurs et les avantages dont il allait être comblé par la suite de sa nomination à ce foyer d'instruction qu'on appelait Dotheboys Hall.
« Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Êtes-vous malade ?»
dit Nicolas s'interrompant brusquement à la vue d'une grande variété d'attitudes fantastiques auxquelles se livrait son interlocuteur qui, passant les mains sous son tabouret, faisait claquer ses doigts comme s'il en brisait tous les os. Newman Nudge, sans répondre un mot, continua à jouer des épaules et à faire craquer ses doigts. Pendant tout ce temps-là, Il avait un sourire horrible, un regard brut, les yeux hors de la tête. On aurait dit un spectre. Nicolas crut d'abord que le mystérieux inconnu avait une attaque de nerfs, mais après réflexion, il s'arrêta à la pensée qu'il avait bue, auquel il était prudent de s'esquiver sans perdre de temps. Il réussit à gagner la porte, l'ouvrir, s'évader, et, en jetant les yeux derrière lui, il vit Newman Nudge encore occupé à se livrer au même exercice, avec des gestes extraordinaires et des craquements de doigts plus retentissants que jamais.